Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 19 juillet 2014, bienvenue dans cette session qui revient semaine après semaine sur le monde tel qu'il va avec le reportage de la rédaction. Une émission que vous pouvez retrouver podcastée sur le site de la radio, www.rfi.fr. Nos escales vont être nombreuses, comme chaque samedi, nous irons évidemment en Ukraine après le crash de l'avion de la Malaysia Airlines abattu jeudi par un missile. Rendez-vous avec l'actualité africaine et vos messages dans la seconde partie de l'émission après le flash. Mais notre rendez-vous va surtout être consacré à la situation au Proche-Orient. Notre invitée cette semaine est Katia Clarence. Elle est journaliste. Elle a vécu à Gaza et elle a écrit une saison à Gaza, voyage en territoire assiégé chez Jean-Claude Lattès, un livre publié en 2012. Bonjour Katia Clarence.
Bonjour.
2012, mais là on peut dire que la situation des habitants de Gaza, les Gazaouis, n'a pas vraiment changé.
Elle est identique, c'est-à-dire qu'ils vivent enfermés, c'est-à-dire la frontière avec l'Égypte est fermée après un bref assouplissement au moment où les frères musulmans étaient au pouvoir en Égypte. Elle est de nouveau fermée à double tour et l'entrée par Israël, évidemment, est fermée également. Donc on peut dire qu'ils vivent 1,5 million de personnes, un peu plus d'1,5 million de personnes vivent enfermées dans une prison à ciel ouvert.
Dans des conditions difficiles, il faut le redire, non ?
Dans des conditions difficiles, oui. Alors, il y a eu un assouplissement. Maintenant, des marchandises rentrent depuis Israël. Donc, on n'a plus vraiment de problème pour trouver dans les magasins ce qu'on ne trouvait plus à une époque, c'est-à-dire du lait pour les enfants, du papier hygiénique, les choses vraiment basiques. Bon, maintenant, entrent depuis Israël à nouveau. Depuis un petit moment, déjà. En fait, depuis la dernière offensive où, sous pression de la communauté internationale, on avait assoupli un petit peu les mesures. Les tunnels continuent de fonctionner pour faire rentrer des armes et des matériaux de construction essentiellement, puisqu'on l'a vu, la destruction est quand même importante à Gaza et régulièrement importante et les produits de construction sont interdits d'entrer. Donc ça conduit à effectivement un trafic de ciment, de briques, de tout ce qui peut aider à reconstruire des immeubles.
7 jours d'actualité avec, comme d'habitude, une grande diversité de sujets, Katia. Écoutons ainsi, par exemple, une voix, celle de Nadine Gordimer, la grande romancière sud-africaine combattante contre l'apartheid. Elle nous a quittés cette semaine. C'était en 1991, l'année où elle a été la lauréate du prix Nobel de littérature.
J'ai commencé à écrire, poussée par le désir de comprendre le sens du mystère de la vie, du comportement humain, de ma propre émotion et de celle des autres. Le fait que j'habite dans un pays où les relations entre les gens et leur vie quotidienne sont fortement politisées m'incite à en parler dans mes livres, bien sûr. Quelquefois, vers la fin des années 60, quand toutes sortes de protestations échouaient, la question était, comment puis-je continuer à vivre ici en tant que blanche privilégiée s'il m'est impossible de prendre part à un mouvement susceptible de rompre ce régime terrible ? J'ai beaucoup voyagé à travers l'Afrique dans les années 70 et j'ai réalisé que partout sauf ici, j'étais considérée comme une Européenne. J'étais étrangère en Afrique. Cela ne m'est jamais arrivé dans mon propre pays.
Nadine Gordimer, donc, ainsi va l'actualité. Katia Clarence, sur la route du Proche-Orient, nous passons par le Brésil pour un dernier clin d'œil à la Coupe du Monde, vainqueur, champion du monde, donc, l'Allemagne qui a battu l'Argentine 1-0 pendant les prolongations. Ambiance sur notre antenne au moment du but avec Philippe Zigraf qui a commenté cette finale avec Christophe Jousset.
Alors qu'on joue depuis 112 minutes, dans moins de 8 minutes maintenant, ce seront les tirs au but et les Allemands avec ce ballon. Oh, le débordement avec le but pour l'équipe d'Allemagne. Signé Mario Götze pour l'ouverture du score à la 113e minute de jeu, l'Allemagne mène 1-0.
Une très belle équipe d'Allemagne, championne du monde donc, pour 4 ans.
Sept jours dans le monde.
Katia, Clarence, ça y est, nous y sommes, remontons le temps. Nous sommes en Israël et à Gaza où les affrontements entre le Hamas et Tzahal ont continué avec d'abord l'espoir d'un cessez-le-feu mardi. Jérusalem, Michel Paul.
Après 2 heures de réunion, le cabinet de sécurité israélien a annoncé peu avant 9 heures locales qu'il acceptait la proposition égyptienne de cesser le feu. Le premier ministre israélien a aussitôt ordonné la suspension de l'opération Bordure Protectrice, 8 jours après son début. En cas de violation du cessez-le-feu, souligne-t-on, Israël réagira avec toute sa puissance militaire. 2 des ministres qui participaient à la réunion se sont opposés au cessez-le-feu, opposition aussi au sein du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Plusieurs ministres estiment que l'offensive israélienne a été terminée trop tôt. L'arsenal de roquettes du Hamas existe toujours et la direction de l'organisation à Gaza est toujours en place. Dans 48 heures, les partis Israël et Hamas devraient se retrouver au Caire pour peaufiner l'accord lors de négociations indirectes par l'intermédiaire de l'Égypte. Israël demandera entre autres la démilitarisation de la bande de Gaza.
Finalement, Israël a repris ses frappes pendant quelques heures, le Hamas ayant rejeté la trêve proposée par l'Égypte. Envoyé spécial à Gaza, Daniel Valo, mardi toujours.
3 brèves détonations et dans le ciel la traînée blanche des roquettes tirées vers Israël. Il est 11h15 à Gaza, la branche militaire du Hamas vient d'annoncer qu'elle rejette la trêve proposée par l'Égypte. Pour cet habitant de Gaza, le mouvement palestinien a raison de poursuivre ses tirs de roquettes.
Si le Hamas n'avait pas lancé ses roquettes, ça aurait signifié qu'on accepte cette trêve sans condition. Or je pense que le Hamas peut obtenir des concessions d'Israël, car c'est Israël qui a peur. C'est Israël qui veut un cessez-le-feu, parce qu'avec nos roquettes, ils passent leur nuit terrée dans des abris.
À Gaza, ce discours va-t-en-guerre et pro-Hamas est très largement répandu. Rares sont ceux qui osent tenir des propos plus nuancés. Encore plus rares sont ceux qui regrettent publiquement de voir le Hamas rejeter le cessez-le-feu.
C'est évident qu'à partir de maintenant, la situation ne va faire qu'empirer. Alors on est déçus, parce qu'en laissant passer cette chance, on court vers la catastrophe. Les Israéliens vont bombarder encore plus de bâtiments maintenant que la trêve n'a pas marché.
Hier, cet habitant de Gaza a cru un moment à la possibilité d'un répit, mais ce répit n'aura duré que quelques heures. Dès le milieu de l'après-midi, les bombardements israéliens reprenaient sur le territoire palestinien.
Katia Clarence, écoutez ce message de l'armée israélienne adressé aux habitants de Gaza mercredi. 100 000 habitants ont été appelés à évacuer leur domicile.
Pour votre sécurité, quittez vos maisons immédiatement et rendez-vous dans le centre de Gazaville avant 8 heures du matin. Il est interdit de revenir sur place jusqu'à nouvel ordre.
Katia, vous qui avez vécu une saison à Gaza, pour reprendre le titre de votre livre, publié, je rappelle, en 2012, où peuvent aller ces gens si l'on leur demande de partir? Où peuvent-ils aller?
Nous en parlions tout à l'heure, la bande de Gaza est donc fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue pour ces gens-là. Donc lorsqu'on leur dit « évacuez vos maisons », c'est évacuer pour aller où? Il n'y a nulle part où aller. Alors des écoles de l'ONU ont été ouvertes pour accueillir les réfugiés, mais 100 000 personnes, c'est quand même beaucoup de monde. Dans 5 ou 6 écoles, ça ne tient pas.
Vous nous parliez tout à l'heure, Katia, d'une prison. Ça veut dire que si les portes de la prison étaient ouvertes, tout le monde partirait?
De nombreuses personnes partiraient, évidemment, ouais. Pour éviter les frappes israéliennes, de toute façon, et pour fuir le Hamas aussi, parce que, effectivement, les populations gaziotes, les jeunes, plus encore, sont prises entre le marteau et l'enclume, totalement.
Il faut s'y arrêter 2 secondes, Katia. Le Hamas fait aussi souffrir la population palestinienne.
Bien entendu, il y a des manifestes de la jeunesse palestinienne qui circulent, où ils disent « arrêtez de nous bombarder ». D'un côté, on se fait tapé dessus par le Hamas. De l'autre côté, on se fait bombarder. C'est terrible pour eux, vraiment. Penser que la population gaziote, dans son ensemble, soutient le Hamas, c'est une erreur. Évidemment, en temps de guerre, comme les reportages qu'on vient d'entendre, les gens sont unis derrière le Hamas puisqu'ils ne représentent la seule résistance à Israël et qu'en plus, il ne ferait pas bon de dire quelque chose contre le Hamas qui a quand même des méthodes particulièrement violentes. Ce sont des dictateurs. Donc, c'est compliqué maintenant de faire dire aux gens qu'ils ne sont pas pour le Hamas. Si demain, il y avait des élections, de nouveau, le Hamas ne serait pas élu à Gaza. En revanche, il reste populaire dans les territoires palestiniens qui, eux, ne souffrent pas les frappes israéliennes. Les conditions des gaziotes sont extrêmement difficiles. Mais je voudrais revenir un petit peu sur... Enfin, faire un petit peu de contexte pour expliquer cette escalade qui a lieu depuis quelques temps. Donc, effectivement, suite à la deuxième intifada, et les attentats qu'il y a eu à Tel Aviv, dont on se souvient très bien, les autobus, les boîtes de nuit, les Israéliens ont fermé les portes de Gaza. Ça a eu pour effet une diminution drastique des attentats. Donc, d'un côté, eux disent, bah oui, mais nous, on préserve notre sécurité. D'un autre côté, on peut dire que humainement, c'est pas possible. On ne peut pas enfermer 1,5 million de personnes dans une prison. C'est pourtant ce qui est en cours depuis maintenant 2006. Hein, donc, ça fait 8 ans. Donc, c'est une situation qui ne peut pas tenir. Maintenant, je voulais parler aussi de la stratégie militaire israélienne, dont on voit qu'elle ne fonctionne pas puisque le problème se répète, pas d'année en année, mais presque. On a eu 2008-2009, on a eu 2012, maintenant 2014.
La dernière opération, c'est plomb durci, hein. C'est ça ?
Absolument.
En 2008.
Il y a eu ensuite
l'opération 2012,
voilà,
aussi,
qui était bien moins sévère. Celle qui a marqué vraiment les esprits, c'est effectivement celle de 2008-2009.
Alors, on va y revenir dans un instant, mais je voudrais que l'on fasse d'abord un petit détour, si j'ose dire, par l'Ukraine.
Une semaine d'actualité.
Et partons donc, Katia, pour l'Ukraine, avant de revenir à Jérusalem, où les combats continuent entre l'armée gouvernementale qui regagne du terrain d'ailleurs et les rebelles pro-russes. La tension reste vive. Mais ce qu'il faut évidemment retenir surtout, c'est le crash d'un avion de la Malaysia Airlines qui assurait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur. Avec à son bord 298 personnes, il a été abattu par un missile. Reportage jeudi, quelques heures après la catastrophe, de notre envoyé spécial Damien Simonard.
Les principaux éléments de l'épave se concentrent sur quelques centaines de mètres au beau milieu d'un champ. Des cadavres défigurés, parfois déchiquetés, jonchent le sol. Les rebelles pro-russes empêchent les automobilistes de rouler sur une jambe arrachée au milieu de la route. Aucun périmètre de sécurité ne protège la zone. Les habitants du village voisin se promènent tranquillement dans les débris. Les quelques pompiers présents sur place éteignent les derniers foyers d'incendie, mais ils n'ont plus aucune vie à sauver. Une fois la nuit tombée, un important convoi de rebelles arrive dans la zone, parmi eux le premier ministre de la République autoproclamée de Donetsk. Alexander Borodaï rejette la responsabilité du drame sur l'armée ukrainienne, affirmant que les armes des séparatistes ne peuvent pas toucher un avion à 10 000 mètres d'altitude. En fin de soirée, les rebelles établissent enfin un cordon de sécurité. Dans la nuit noire, ils resteront seuls, avec toutes les preuves de l'accident.
Sur les circonstances de cette catastrophe, ses responsables, l'enquête, je vous recommande évidemment d'écouter nos journaux. L'actualité internationale cette semaine, c'est aussi l'attaque de l'aéroport de la capitale de l'Afghanistan, Kaboul, par les talibans qui ont été repoussés par l'armée. Mardi, un attentat suicide a fait une quarantaine de morts dans l'est du pays, à la frontière pakistanaise. Et le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a autorisé à l'unanimité l'acheminement d'aide humanitaire en Syrie sans passer par Damas, 4 postes frontières permettront désormais d'atteindre les zones contrôlées par les rebelles. Notez aussi que Jean-Claude Juncker a été élu mardi par les eurodéputés à la présidence de la Commission européenne. Et retournons en Israël, Katia Clarence, pour reparler de la guerre entre le Hamas et Israël. Jeudi matin, il était question d'une trêve et le soir, Israël a donc lancé une opération militaire terrestre à Gaza, correspondance de Michel Paul hier matin.
Les forces armées israéliennes sont entrées en masse dans plusieurs secteurs de la bande de Gaza et se sont heurtées immédiatement au feu des combattants du Hamas. L'opération terrestre progresse selon les plans, indique l'armée israélienne. Les troupes ont atteint leurs objectifs, toujours selon un porte-parole de l'armée israélienne, qui ajoute que l'opération se poursuivra jusqu'à ce que le calme et la sécurité de la population israélienne soient assurés. Dès le début de l'offensive terrestre, Israël a demandé aux habitants de Gaza de s'éloigner des zones de combat. Par ailleurs, on indique en Israël que le gouvernement a donné le feu vert au rappel de 18 000 réservistes au-delà des 40 000 qui ont déjà été mobilisés. Le but principal de l'offensive, souligne-t-on, est d'atteindre et de détruire les tunnels qui vont de Gaza vers Israël et également les lampes de lancement de roquettes. Deux objectifs que l'aviation israélienne n'a pas réussi à neutraliser pendant les 10 premiers jours de l'opération militaire à Gaza.
La situation est, répétons-le, à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio également, www.rfi.fr. Suite d'une semaine d'actualité, Katia Clarence, là nous y sommes, cette offensive lancée donc jeudi soir par l'armée israélienne. Et vous vouliez nous parler de cette stratégie israélienne précisément?
Oui, ce qui est frappant, c'est que on voit donc année après année, le scénario se répète. Donc cette stratégie ne convient pas, ne fonctionne pas. Alors pourquoi les Israéliens continuent à avoir une telle stratégie? Pour comprendre, je pense qu'il faut expliquer ce que c'est que l'armée israélienne. L'armée israélienne, c'est une armée d'appelés. Ce sont les enfants d'Israël, c'est-à-dire que pour les garçons, c'est 3 ans d'armée, pour les femmes, ce sont 2 ans. Et la population ne tolérerait pas des pertes massives à l'intérieur de cette armée. Ce qui aide à comprendre pourquoi les opérations terrestres sont si rares, puisqu'on voit bien qu'on ne peut pas venir à bout d'une milice en tirant depuis des avions, depuis la marine ou depuis des chars. Ça ne fonctionne pas. On peut détruire des installations qui seront reconstruites, puisque les pertes humaines des miliciens sont vraiment faibles en réalité.
Et donc, en revanche, les pertes civiles sont importantes.
Les pertes civiles sont importantes, mais c'est la seule solution pour l'instant militaire qu'ont trouvé les Israéliens pour faire la guerre sans perdre d'hommes, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Et c'est ce qui effectivement provoque les pertes massives. Des rapports du Pentagone qui datent d'il y a plus de 15 ans disent déjà que la guerre asymétrique, on est dans ce cas précisément, ne peut pas être menée depuis des chars, depuis des avions, et qu'il faut déployer des hommes sur le sol pour combattre d'autres hommes sur le sol.
Il faut rappeler ce qu'une guerre asymétrique, c'est-à-dire une guerre entre une armée et un mouvement de rébellion, par exemple, et non pas un conflit entre deux armées classiques, dirais-je.
Ouais. Voilà, ce qui est la majorité des guerres sur la planète aujourd'hui. Donc voilà, la stratégie militaire israélienne ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à perdre des soldats israéliens. Ce serait une catastrophe dans l'opinion, qu'aucun homme politique n'est prêt à prendre ce risque.
Ou alors il faut que les pertes soient minimes, comme c'est le cas aujourd'hui, semble-t-il. Bon.
Voilà, mais avec les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire de mauvais résultats. On détruit les infrastructures sont reconstruites et on se heurte au même problème.
Donc c'est la guerre sans fin.
C'est un peu la guerre sans fin.
D'autant qu'il n'y a pas de négociations diplomatiques.
Disons que les négociations sont devenues très difficiles parce que le Hamas n'a plus vraiment d'interlocuteur. C'est-à-dire l'interlocuteur principal du Hamas, c'était l'Égypte, qui a été médiateur dans les précédents conflits. Aujourd'hui, en Égypte, il n'y a plus d'interlocuteur pour le Hamas, puisque les frères musulmans sont complètement chassés. Et ce ne sont pas que, c'est-à-dire que la Syrie aussi a désavoué le Hamas, puisque Khaled Meshal et tout le bureau politique du Hamas avaient quitté la Syrie, désavouant Bachar el-Assad au début du conflit. Syriens, donc les Syriens sont vent debout contre le Hamas. L'Arabie Saoudite est en guerre ouverte également contre les frères musulmans. Il y avait le Qatar, mais le Qatar est un petit peu mal à l'aise parce qu'il s'est fait sévèrement rabrouer, donc il rentre un petit peu dans les rangs. Et puis le dernier interlocuteur, c'était l'Iran. L'Iran, qui aujourd'hui a quand même d'autres chats à fouetter, puisque avec ce qui se passe en Syrie et en Irak, ils sont très mobilisés là-dessus.
Et il faut rajouter les négociations sur le nucléaire qui ont lieu en ce moment même, d'ailleurs.
Voilà, en plus. Donc, aujourd'hui, vraiment, on a un problème de médiateur. C'est très difficile. La communauté internationale, l'Europe a jeté l'éponge depuis longtemps. Les États-Unis sont désabusés. On entend des déclarations, mais qui vraiment ne portent pas à conséquence. Aujourd'hui, clairement, la pression internationale est faible, voire inexistante.
Ce qui laisse le champ libre à la guerre et aux militaires. En quelque sorte.
Ce qui laisse le champ libre aux extrêmes pour s'exprimer.
En plus. Katia, Clarence, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde où il est certain, question du Proche-Orient, à nous retrouver. Nous allons nous retrouver dans 3 minutes. À tout de suite.